106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Voici Marc-André Pelletier.
À 6h53, Raphaël, je t'invite à embarquer dans la conversation parce que c'est un dossier qu'on a vu passer concernant, écoutez, le mythe de l'obésité santé. C'est quoi? C'est de dire, sûrement que notre invité saura préciser ça davantage que moi, c'est pour ça notamment que je ne suis pas docteur, mais que l'obésité santé est le mythe qui vient à travers ça, c'est un peu de dire, malgré que tu affiches un surpoids, ou en tout cas que physiquement, là, tu sembles avoir un surpoids.
Une surcharge pondérale.
Exact. Tu peux être en santé quand même. C'est un mythe qui circule, semble-t-il, de plus en plus. Puis moi, j'ai toujours entendu parler de bon gras. Ça m'a toujours fait sourire un peu, même si dans les faits, je comprends que ça a l'air d'être ça. Là,
mais... Oui, il y a une expression dans le domaine du fitness qui s'appelle « fat but fit ». Alors, ce qui veut dire être un peu, bon, avoir une surcharge pondérale, mais être en santé au niveau métabolique. Et je me suis posé la question, est-ce que ça peut vraiment arriver?
Oui, comment est-ce possible ou impossible? C'est ce qu'on va tenter de décortiquer avec notre invité, la docteure Christiane Laberge. Bon matin.
Bonjour.
Donc, ce qu'on disait, c'est possible ou pas d'être fat but fit?
Bien, ce qu'on nous a appris avant, c'est que quand tu avais, par exemple, tous les paramètres, tu avais un surpoids, mais ce sont des gens qui font de l'exercice, ce sont des gens qui mangent en général bien maintenant, ce sont des gens qui ont un surpoids, mais un surpoids fixe pendant longtemps. Donc, c'est pas un gain de poids de 5 livres par année, là.
Ouais.
C'est des gens qui vont peser, par exemple, 160 livres, une femme, 5 pieds 5, puis qui va être égale tout le temps depuis 15 ans.
Okay.
Donc, ce sont des gens qui n'avaient pas de progression. D'autre part, le bon gras, on parle pas du gras extérieur, on parle du gras sanguin.
Mm-hmm.
Donc, ce qu'on appelle, entre guillemets, le bon gras, c'est le HDL. Pour m'en souvenir, c'est le heavy density, les lipides. Donc, heavy density, moi, je me disais que c'est les ficheurs, ceux qui fichent les tuyaux.
Okay.
Et puis, les light, les LDL, ce sont ceux qui collent comme des plumes sur la mélasse. Donc, ça colle aux parois et ça encrasse les vaisseaux.
Ouais, okay.
Donc, ces gens-là qui étaient... Parce que l'obésité, en général, va nous amener vers un syndrome métabolique. Syndrome métabolique, ça veut dire que, tranquillement, ton insuline monte, essaie de faire ouvrir tes portes pour stocker ton sucre dans le foie et dans les muscles, et tout à coup, la porte n'ouvre pas, et là, tu deviens diabétique.
Ouais.
Donc, l'insuline est plus haute dans le sang. Deuxièmement, l'hypertension. Les LDL qui montent, c'est-à-dire le mauvais cholestérol qui monte, et tout ça concourt à donner le syndrome métabolique qui va nous amener à des complications vasculaires, l'infarctus, l'AVC, puis à ce moment-là, avoir des maladies aussi inflammatoires de type Alzheimer, de type cancer, qui est une maladie inflammatoire. Donc, cette inflammation-là trouve trois canaux principaux.
OK.
Les vaisseaux, le cancer ou l'accumulation au cerveau de l'amyloïde qui est l'Alzheimer. Donc, ça augmentait ces paramètres-là. Or, il y avait un groupe d'individus. On ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes, cependant, parce que les études, tu sais, qui ne sont jamais faites, femmes ou hommes, c'est les individus. On nous met tous dans le même paquet.
Ouais,
comme
c'est
si on était tous pareils.
Hein?
Comme s'il n'y avait pas de différence. Mais cela dit, on a remarqué les gens qui avaient un cholestérol qui était un surpoids, mais qui n'avaient pas d'augmentation de diabète pendant très longtemps, qui n'avaient pas ce LDL élevé, qui avaient un HDL élevé, qui avaient des paramètres qui étaient tous normaux, qui n'avaient pas de signe d'inflammation, donc visible. Et dans le temps, on nous dit qu'ils sont quand même rattrapés par les maladies dont on parlait tantôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine se déglingue quand même, ce qui fait qu'ils deviennent hypertendus, ils deviennent hypertriglycémiques, ils deviennent diabétiques et finalement, ils rattrapent avec les autres, les risques qu'ils avaient pour la santé.
OK. Docteur Laberge, pour que les gens qui nous écoutent ce matin comprennent bien, est-ce que... Si, par exemple, j'ai un surpoids depuis, mettons, 15 ans, mais que je suis stable, je suis plus à risque que quelqu'un qui était, par exemple, plus mince et qui a gagné 50 livres dans la dernière année. Je le mets à l'extrême, mais on se comprend.
On pense que oui. On pense que oui. Et l'autre chose, la bonne nouvelle aussi, c'est que quelqu'un qui est en surpoids, à qui on annonce qu'il commence à se diriger vers le syndrome métabolique, que son sucre monte tranquillement, il n'est pas encore diabétique, sa pression monte à la limite, on a des paramètres qui commencent à se modifier. On dit à cette personne-là, si vous perdez 10 % de votre poids de façon saine dans l'année, on recule les risques un peu.
Okay.
Donc, ça peut être une très... Tu sais, les gens qui disent, moi, je vais perdre 100 livres, mais être en santé. C'est pas ça qu'on veut, là.
Ouais, c'est
ça. Si tu pèses 160, par exemple, on dit, ben regarde, tu baisserais de 16 livres, 5 à 10 %. On dirait que ça choque le système. Puis, comment on les perd? Oui. On les perd avec une légère restriction alimentaire, puis avec de l'exercice. Mm-hmm. Et les deux combinés, souvent, vont diminuer l'inflammation. On avait des gens qu'on a pris pour faire du vélo stationnaire pendant 12 semaines, à raison de 30 minutes, 4 fois par semaine.
Oui.
Et on a fait des tests cognitifs avant. C'était des gens de 60 ans à peu près. Mm-hmm. On a fait les tests cognitifs avant, puis on a augmenté leur performance de 38 % au bout de 12 semaines.
Quand même.
Quand même. Donc, il y a des choses qui vont être anti-inflammatoires, comme l'alimentation, qui peut être de plus en plus anti-inflammatoire, ça dépend ce qu'on met dans l'assiette.
Ouais.
Et deuxièmement, l'exercice.
C'est toujours
les deux. C'est pas de l'exercice de fou, là. C'est l'exercice ordinaire, là.
Ah ouais, c'est deux clés toujours importantes. Et docteur Laberge, dites-moi, les gens là, qui se font, par exemple, brocher l'estomac, là, puis qui perdent justement le 150 livres d'une frappe, est-ce que eux autres, ils se mettent en danger carrément?
À long terme, c'est sûr que ce qu'on appelle l'obésité morbide, ce sont des gens qui sont... Ces gens-là, d'ailleurs, tu les mets en restriction alimentaire, là.
Oui.
Supposons 300 livres, là, 350 livres. Tu les mets en restriction alimentaire, tu les mets à l'exercice, puis ils ne perdent pas une livre, là.
Ah ouais,
maximum
comment ça?
5.
Ouais.
Il y a un métabolisme qui change et qui fait qu'ils sont plus... Ils sont plus bougeables.
Ah ouais.
Puis c'est pas parce qu'ils bougent pas, c'est pas parce qu'ils mangent énormément tout le temps, mais même quand tu les suis, tu les mets en restriction, ça marche pas.
Mais ils peuvent
souvent,
faire quoi d'abord?
Ben, c'est pour ça que eux, quand on les opère, ils sont déjà diabétiques, ils sont souvent apnéiques du sommeil, ils sont déjà hypertendus, c'est déjà des malades.
Ouais.
Donc, tu ne pars pas avec une population en santé que tu vas traiter, puis regarder ce qu'ils vont devenir plus tard. Tu prends des gens très malades, souvent avec un risque de mortalité précoce de l'ordre de 10 ans, là.
Ouais.
Dans les 10 ans.
Aïe.
Donc, c'est des gens qui, à 50, 60 ans, seraient morts. Et là, on traite, et ces gens-là, on regarde qu'est-ce qu'ils vont être dans 10 ans, mais ils sont encore en vie, c'est entre guillemets. Mais il faut savoir que tes gras stockent des cochonneries.
Mm-hmm.
Donc, quand tu fais fondre ce gras-là, t'as quand même de la cochonnerie en tabarouette à métaboliser.
Ouais, bah.
Tes pesticides, tes métabolises, hein, s'il vous plaît, ils s'en vont où, je le sais pas. Mais comme t'as une survie qui était courte, ben, t'allonges la survie, mais c'est parfait.
Ouais, c'est
alors,
ça.
C'est dans ce contexte-là. Mais c'est pas le premier traitement, de loin pas. Actuellement, on joue aussi beaucoup sur le microbiote au niveau social. Hein. On sait que si tu prends une souris obèse, une souris mince, tu ensemences avec les selles de l'une et de l'autre des souris qui n'ont rien du tout dans leur intestin. La souris qui est ordinaire va devenir obèse avec les selles de l'obèse et la souris mince va rester mince avec les selles de la mince. Donc, il y a aussi des choses dont on se pose des questions beaucoup, 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 entre autres le microbiote, comme dans l'anxiété, c'est pareil, tu prends ta semence avec une souris anxieuse génétiquement modifiée là, pour être anxieuse, pas et l'autre qui est ordinaire, Joe Cool, puis via le microbiote, tu peux provoquer l'extension de l'anxiété ou du calme. Ça fait qu'il y a des affaires qui s'en viennent qui sont encore aux études et pour de nombreuses années, mais on n'a pas toutes les réponses encore.
C'est fascinant. Merci beaucoup, Dr Laberge.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Donc, Dr Christiane Laberge sur le mythe de l'obésité santé.